Chapitre 6 Le grand pain. Ce n'est pas Brangien la fidèle, c'est eux-mêmes que les amants doivent redouter. Mais comment leurs cœurs enivrés seraient-ils vigilants? L'amour les presse comme la soif précipite vers la rivière le cerf sur ses fins. Ou tel encore, après un long jeûne, l'épervier soudain lâché fond sur la proie. Hélas, amour ne se peut sceller. Certes, par la prudence de Brangien, nul ne surprit la reine entre les bras de son ami, mais à toute heure, en tout lieu, chacun ne voit-il pas comment le désir les agite, les étreint, déborde de tous leurs sens, ainsi que le vin nouveau ruisselle de la cuve. Déjà, les quatre félons de la cour, qui haïssaient Tristan pour sa prouesse, rôdent autour de la reine. Déjà, ils connaissent la vérité de ses belles amours. Ils brûlent de convoitise, de haine et de joie. Ils porteront au roi la nouvelle. Ils verront la tendresse se muer en fureur. Tristan chassé ou livré à la mort et le tourment de la reine. Ils craignaient pourtant la colère de Tristan, mais enfin, leur haine dompta leur terreur. Et un jour, les quatre barons appelèrent le roi Marc à parlement, et André dit « Bon roi, sans doute ton cœur s'irritera, et tous quatre nous en avons grand deuil, mais nous devons te révéler ce que nous avons surpris. Tu as placé ton cœur en Tristan, et Tristan veut te honnir. Vainement, nous t'avions averti. Pour l'amour d'un seul homme, tu fais fi de ta parenté et de ta baronnie entière, et tu nous délaisses tous. » Sache donc que Tristan aime la reine. C'est la vérité prouvée, et déjà l'on en dit maintes paroles. Le noble roi chancela et répondit : Lâche ! Quelle félonie as-tu pensé ? Certes, j'ai placé mon cœur en Tristan. Au jour où le Morolt nous offrit la bataille, vous baissiez tous la tête, tremblant, et pareils à des muets. Mais Tristan l'affronta pour l'honneur de cette terre, et par chacune de ses blessures, son âme aurait pu s'envoler. C'est pourquoi vous le haïssez, et c'est pourquoi je l'aime plus que toi, Andrette, plus que vous tous, plus que personne. Mais que prétendez-vous avoir découvert? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Oh, rien, en vérité, Seigneur. Rien que tes yeux ne puissent voir, rien que tes oreilles ne puissent entendre, regarde, écoute, beau sire, peut-être il en est temps encore. » Et s'étant retiré, ils le laissèrent à loisir savourer le poison. Le roi Marc ne put secouer le maléfice. À son tour, contre son cœur, il épia son neveu, il épia la reine. Mais Brangien s'en aperçut, les avertit, et vainement le roi tenta d'éprouver Iseut par des ruses. Il s'indigna bientôt de ce vil combat, et comprenant qu'il ne pourrait plus chasser le soupçon, il manda Tristan et lui dit « Tristan, éloigne-toi de ce château, et quand tu l'auras quitté, ne sois plus si hardi que d'en franchir les fossés ni les lys. Des félons t'accusent d'une grande traîtrise, ne m'interroge pas. Je ne saurais rapporter leurs propos sans nous honnir tous les deux. Ne cherche pas des paroles qui m'apaisent, je le sens, elles resteraient vaines. Pourtant, je ne crois pas les félons. Si je les croyais, ne t'aurais-je pas déjà jeté à la mort honteuse? Mais leurs discours maléfiques ont troublé mon cœur, et seul ton départ le calmera. Pars. Sans doute, je te rappellerai bientôt. Pars, mon fils toujours cher. » Quand les félons ouïrent la nouvelle, « Ah, il est parti, » dirent-ils entre eux, « il est parti, l'enchanteur, chassé comme un larron. Que peut-il devenir désormais? Sans doute, il passera la mer pour chercher les aventures et porter son service déloyal à quelque roi lointain. » Non, Tristan n'eut pas la force de partir. Et quand il eut franchi les lices et les fossés du château, Il connut qu'il ne pourrait s'éloigner davantage. Il s'arrêta dans le bourg même de Tintagel, prit hôtel avec Gorneval dans la maison d'un bourgeois et languit, torturé par la fièvre, plus blessé que naguère au jour où les pieux du Morolt avaient empoisonné son corps. Naguère, quand il gisait dans la cabane construite au bord des flots et que tous fuyaient la puanteur de ses plaies, trois hommes pourtant l'assistaient, Gorvenal, Dinas de Lydan et le roi Marc. Maintenant, Gorneval et Dinas se tenaient encore à son chevet, mais le roi Marc ne venait plus, et Tristan gémissait. « Certes, bel oncle, mon corps répand maintenant l'odeur d'un venin plus repoussant, et votre amour ne sait plus surmonter votre horreur. Mais sans relâche, dans l'ardeur de la fièvre, le désir l'entraînait comme un cheval emporté vers les tours bien closes qui tenaient la reine enfermée. Cheval et cavalier se brisaient contre les murs de pierre, mais cheval et cavalier se relevaient et reprenaient sans cesse la même chevauchée. Derrière les tours bien closes, Iseut la blonde languit aussi, plus malheureuse encore, car parmi ces étrangers qui l'épient, il lui faut tout le jour feindre la joie et rire. Et la nuit, étendue aux côtés du roi Marc, il lui faut dompter immobile l'agitation de ses membres et les tressauts de la fièvre. Elle veut fuir vers Tristan. Il lui semble qu'elle se lève et qu'elle court jusqu'à la porte. Mais sur le seuil obscur, les félons ont tendu de grandes faux. Les lames affilées et méchantes saisissent au passage ses genoux délicats. Il lui semble qu'elle tombe et que de ses genoux tranchés s'élancent deux rouges fontaines. Bientôt, les amants mourront si nul ne les secourt. Et qui donc les secourra, sinon Brangien? Au péril de sa vie, elle s'est glissée vers la maison où Tristan languit. Gorneval lui ouvre tout joyeux, et pour sauver les amants, elle enseigne une ruse à Tristan. « Non, jamais, seigneur, vous n'aurez ouï parler d'une plus belle ruse d'amour. » Derrière le château de Tintagel, un verger s'étendait, vaste et clos de fortes palissades. De beaux arbres y croissaient, sans nombre, chargés de fruits d'oiseaux et de grappes odorantes. Au lieu le plus éloigné du château, tout auprès des pieux de la palissade, un pin s'élevait haut et droit, dont le tronc robuste soutenait une large ramure. À son pied, une source vive, l'eau s'épandait d'abord en une large nappe, claire et calme, enclose par un perron de marbre, puis, contenue entre deux rives resserrées, elle courait par le verger, et pénétrant dans l'intérieur même du château, traversait les chambres des femmes. Or, chaque soir, Tristan, par le conseil de Brangien, taillait avec art des morceaux d'écorce et de menus branchages. Il franchissait les pieux aigus et, venu sous le pin, jetait les copeaux dans la fontaine. Léger comme l'écume, il surnageait et coulait avec elle, et dans les chambres des femmes, Iseut épiait leur venue. Aussitôt, les soirs où Brangien avait su écarter le roi Marc et les félons, elle s'en venait vers son amie. Elle s'en vient, agile et craintive pourtant, guettant à chacun de ses pas si des félons se sont embusqués derrière les arbres. Mais dès que Tristan l'a vue, les bras ouverts, il s'élance vers elle. Alors la nuit les protège et l'ombre amie du grand pin. « Tristan, dit la reine, les gens de mer, n'assurent-ils pas que ce château de Tintagel est enchanté et que par sortilège, deux fois l'an, en hiver et en été, il se perd et disparaît aux yeux. Il s'est perdu maintenant. N'est-ce pas ici le verger merveilleux dont parlent les haies de larmes? Une muraille d'air l'enclos de toutes parts, des arbres fleuris, un sol embaumé. Le héros y vit sans vieillir entre les bras de son ami, et nulle force ennemie ne peut briser la muraille d'air. Déjà, sur les tours de Tintagel, retentissent les trompes des guetteurs qui annoncent l'aube. « Non, dit Tristan, la muraille d'air est déjà brisée, et ce n'est pas ici le verger merveilleux. Mais un jour, ami, Nous irons ensemble au pays fortuné dont nul ne retourne. Là s'élève un château de marbre blanc. À chacune de ses 1000 fenêtres brille un cierge allumé. À chacune, un jongleur joue et chante une mélodie sans fin. Le soleil n'y brille pas, et pourtant nul ne regrette sa lumière. C'est l'heureux pays des vivants. Mais au sommet des tours de Tintagel, l'aube éclaire les grands blocs alternés de sinople et d'azur. Il s'est à recouvrer sa joie. Le soupçon de Marc se dissipe, et les félons comprennent au contraire que Tristan a revu la reine. Mais Brangien fait si bonne garde qu'ils épient vainement. Enfin, le duc André, que Dieu omnisse, dit à ses compagnons, « Seigneur, prenons conseil de Frossin, le nain bossu. Il connaît les 7 arts, la magie et toute manière d'enchantement. Il sait, à la naissance d'un enfant, observez si bien les plates-têtes et le cours des étoiles qu'il compte par avance tous les points de sa vie. Il découvre, par la puissance de Bugibus et de Noiron, les choses secrètes. Il nous enseignera, s'il veut, les ruses d'Iseut la blonde. En haine de beauté et de prouesse, le petit homme méchant traça les caractères de sorcellerie, jeta ses charmes et ses sorts, considéra le cours d'Orion et de Lucifer et dit « Vivez en joie, beau seigneur, cette nuit vous pourrez les saisir. » Ils le menèrent devant le roi. « Sire, dit le sorcier, mandez à vos veneurs qu'ils mettent la laisse au limier et la selle aux chevaux. Annoncez que 7 jours et 7 nuits vous vivrez dans la forêt pour conduire votre chasse, et vous me pendrez aux fourches si vous n'entendez pas cette nuit même quel discours Tristan tient à la reine. » Le roi fit ainsi contre son cœur. La nuit tombée, il laissa ses veneurs dans la forêt, prit le nain en croupe et retourna vers Tintagel. Par une entrée qu'il savait, il pénétra dans le verger et le nain le conduisit sous le grand pin. « Bon roi, il convient que vous montiez dans les branches de cet arbre. Portez là-haut votre arc et vos flèches. Ils vous serviront peut-être, et tenez-vous quoi? Vous n'attendrez pas longuement. »« Va-t'en, chien de l'ennemi, » répondit Marc. Et le nain s'en alla en menant le cheval. Il avait dit vrai. Le roi n'attendit pas longuement. Cette nuit, la lune brillait claire et belle. Caché dans la ramure, le roi vit son neveu bondir par-dessus les pieux aigus. Tristan vint sous l'arbre et jeta dans l'eau les copeaux et les branchages. Mais comme il s'était penché sur la fontaine en les jetant, il vit, réfléchi dans l'eau, l'image du roi. Ah, s'il pouvait arrêter les copeaux qui fuient, mais non, il court rapide par le verger. Là-bas, dans les chambres des femmes, Iseut épie leur venue. Déjà, sans doute, elle les voit et la court. Que Dieu protège les amants. Elle vient, assis, immobile. Tristan la regarde et dans l'arbre, il entend le crissement de la flèche qui s'encoche dans la corde de l'arc. Elle vient, agile et prudente pourtant, comme elle avait coutume. Qu'est-ce donc, pense-t-elle? Pourquoi Tristan n'accourt-il pas ce soir à ma rencontre? Aurait-il vu quelque ennemi? Elle s'arrête, fouille du regard les fourrés noirs. Soudain, à la clarté de la lune, elle aperçut à son tour l'ombre du roi dans la fontaine. Elle montra bien la sagesse des femmes, en ce qu'elle ne leva point les yeux vers les branches de l'arbre. « Seigneur Dieu, dit-elle tout bas, accordez-moi seulement que je puisse parler la première. » Elle s'approche encore. « Écoutez !» comme elle devance et prévient son ami. « Sire Tristan, qu'avez-vous osé m'attirer en tel lieu à telle heure? Maintes fois déjà vous m'aviez mandé pour me supplier, disiez-vous. Et par quelle prière? Qu'attendez-vous de moi? Je suis venu enfin, car je n'ai pu l'oublier, et si je suis reine, je vous le dois. Me voici donc. Que voulez-vous? Reine, vous criez merci, afin que vous apaisiez le roi. » Elle tremble et pleure. Mais Tristan loue le Seigneur Dieu, qui a montré le péril à son ami. « Oui, reine, je vous ai mandé, souvent et toujours en vain. Jamais depuis que le roi m'a chassé, vous n'avez daigné venir à mon appel. Mais prenez en pitié le chétif que voici, le roi me hait, j'ignore pourquoi, mais vous le savez peut-être. Et qui donc pourrait charmer sa colère, sinon vous seule, reine franche, courtoise, Iseute, en qui son cœur se fie ? En vérité, sire Tristan, ignorez-vous encore qu'il nous soupçonne tous les deux ? Et de quelle traîtrise ? Faut-il par surcroît de honte que ce soit moi qui vous l'apprenne ? Mon seigneur croit que je vous aime d'amour coupable. Dieu le sait pourtant. Et si je mens, qu'il omnisse mon corps. Jamais je n'ai donné mon amour à nul homme, hormis à celui qui le premier m'a prise vierge entre ses bras. Et vous voulez, Tristan, que j'implore du roi votre pardon, mais s'il savait seulement que je suis venu sous ce pain, demain il ferait jeter ma cendre au vent. Tristan gémit. Bel oncle, on dit, nul n'est vilain s'il ne fait vilenie. Mais en quel cœur a pu naître un tel soupçon ? Sire Tristan, que voulez-vous dire ? Non, le roi monseigneur n'eût pas de lui-même imaginé telle vilenie. Mais les félons de cette terre lui ont fait accroire ce mensonge, car il est facile de décevoir les cœurs loyaux. Ils s'aiment, lui ont-ils dit, et les félons nous l'ont tourné à crime. Oui, vous m'aimiez, Tristan, pourquoi le nier ? Ne suis-je pas la femme de votre oncle, et ne vous avais-je pas deux fois sauvé de la mort ? Oui, je vous aimais en retour. N'êtes-vous pas du lignage du roi ? Et n'ai-je pas, oui, maintes fois ma mère, répété qu'une femme n'aime pas son seigneur tant qu'elle n'aime pas la parenté de son seigneur ? C'est pour l'amour du roi que je vous aimais, Tristan. Maintenant encore, s'il vous reçoit en grâce, j'en serai joyeuse. Mais mon corps tremble. J'ai grand peur. Je pars. J'ai trop demeuré déjà. Dans la ramure, le roi eut pitié et sourit doucement. Iseute s'enfuit. Tristan la rappelle. Reine, au nom du Sauveur, venez à mon secours par charité. Les couards voulaient écarter du roi tous ceux qu'il aime. Ils ont réussi et le raillent maintenant. Soit, je m'en irai donc hors de ce pays, au loin, misérable, comme j'y vins jadis. Mais tout au moins, obtenez du roi qu'en reconnaissance des services passés, afin que je puisse sans honte chevaucher loin d'ici. Il me donne du sien assez pour acquitter mes dépenses, pour dégager mon cheval et mes armes. Non, Tristan, vous n'auriez pas dû m'adresser cette requête. Je suis seul sur cette terre, seul en ce palais où nul ne m'aime, sans appui, à la merci du roi. Si je lui dis un seul mot pour vous, ne voyez-vous pas que je risque la mort honteuse ? Ami, que Dieu vous protège. Le roi vous hait à grand tort, mais en toute terre où vous irez, le Seigneur Dieu vous sera un ami vrai. » Elle part et fuit jusqu'à sa chambre, où Brangien la prend tremblant entre ses bras. La reine lui dit l'aventure. Brangien s'écrie. « Iseute, madame, Dieu a fait pour vous un grand miracle. Il est père compatissant et ne veut pas le mal de ceux qu'il sait innocents. » Sous le grand pin, Tristan, appuyé contre le perron de marbre, se lamentait. « Ah, que Dieu me prenne en pitié et répare la grande injustice que je souffre de mon cher seigneur. » Quand il eut franchi la palissade du verger, le roi dit en souriant, « Beau neveu, béni soit cette heure. Vois la lointaine chevauchée que tu préparais ce matin. Elle est déjà finie. Là-bas, dans une clairière de la forêt, le nain Frossin interrogeait le cours des étoiles. Il y lut que le roi le menaçait de mort. Il noircit de peur et de honte, enfla de rage, et s'enfuit prestement vers la terre de Galles. »